Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir à tous, merci d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal, suivi de commentaires. Et après, l'histoire d'aujourd'hui et la mise au point. L'arbitre suivant, vous allez écouter le magazine culturel et ensuite apprendre l'indonésien. Avant de terminer cette émission, comme d'habitude, nous allons présenter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, merci d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Le gouvernement indonésien garantit la liberté de la presse qui est responsable. L'ambassade d'Indonésie à Moscou est prête à tenir le Festival d'Indonésie 2017. Le gouvernement indonésien s'est engagé à coopérer et aider l'État de Rakhine à atteindre la paix. Le projet de la réalité climatique internationale est engagé à lutter contre le changement climatique en Indonésie. L'Indonésie invite la Malaisie et la Thaïlande à lutter contre la campagne noire liée au palmier à huile. Jérémy nous présente maintenant le journal complet. Le gouvernement indonésien garantit la liberté de la presse en Indonésie. Cela a été dit par le ministre des Communications et de l'Information, M. Rudiantara, aux médias à la mise en œuvre du premier jour d'une série de commémorations de la Journée mondiale de la liberté de la presse lundi à Jakarta. Le ministre Rudiantara a déclaré que les médias ont un rôle important à influencer la mentalité du public. Par conséquent, il espère que la liberté de la presse en Indonésie peut être faite avec la pleine responsabilité afin de maintenir l'intégrité de la République unitaire d'Indonésie.
Nah, memang di Indonesia ini kan media ini boleh dikatakan bebas, tapi harus ada tanggung jawab. Ya, kita lihat media televisi terutama ya yang menjadi
katakanlah motor. Indonesia, les médias sont libres, mais ils doivent avoir la responsabilité. Nous voyons les médias de la télévision, notamment qui devient le moteur, la presse écrite, les médias mainstream en général, qui est le moteur, doivent pour affecter l'état d'esprit du peuple. Nous montrons au monde qu'en Indonésie, les médias sont libres, mais il y a une responsabilité. Il est reflété dans la loi numéro 40 sur la presse en Indonésie. Le gouvernement n'a pas intervenu, mais il faut avoir la responsabilité. Il faut maintenir l'intégrité de la République. Le gouvernement facilite la démocratie de la presse. Mais encore une fois, je demande à tous pour maintenir l'unité de l'Indonésie. La série de la Journée mondiale de la liberté de la presse 2017 est tenue du 1er au 4 mai à Jakarta. La commémoration est commencée par le séminaire et la formation liée au développement de la presse et les efforts pour répondre aux défis des médias d'aujourd'hui. La Journée mondiale de la presse à Jakarta aura lieu le 3 mai avec le thème « La pensée critique sur un état critique, le rôle des médias dans le développement d'une société pacifique, équitable et inclusive ». La commémoration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, il y aura aussi la remise du prix Guillermo Cano également appelé le prix UNESCO 2017. Ce prix sera remis à David Isaac, un journaliste né en Érythrée sur le courage, la résistance et l'engagement à la liberté d'expression. Après avoir organisé avec succès le Festival d'Indonésie en 2016, l'ambassade de la République d'Indonésie à Moscou, en Russie, prévoit d'organiser un festival similaire en 2017. Le Festival d'Indonésie 2017 se tiendra plus longtemps et se concentrera spécifiquement sur l'activité et l'investissement des entreprises. Cela a été transmis par l'ambassadeur d'Indonésie à la Fédération de Russie et à la Biélorussie, M. Wahid Supriyadi, en marge de la performance culturelle La Merveilleuse d'Indonésie ou Wonderful Indonesia à Saint-Pétersbourg, en Russie, récemment. Tout d'abord, le différent, cette année, le festival se tiendra pendant 3 jours. L'année dernière, seulement pendant 2 jours. Nous avons également mis l'accent sur le forum d'affaires et d'investissement en raison du festival d'hier que j'ai mentionné plus tôt. Il y a 2 résultats déjà obtenus, le fichage des produits alimentaires indonésiens, le deuxième, Garuda va voler. Eh bien, cette opportunité sera utilisée pour promouvoir à la fois comme résultat du premier festival. L'ambassadeur Supriyadi a ajouté que le Festival d'Indonésie 2017 soulignait la promotion des produits indonésiens, notamment des produits des petites et moyennes entreprises indonésiennes. Le président indonésien Joko Widodo a tenu un entretien bilatéral avec le conseiller d'État de Myanmar Aung San Suu Kyi en marge du 30e sommet de l'ASEAN à Manille aux Philippines samedi 29 avril 2017. Au cours de la réunion, ils ont discuté des conditions au Myanmar et aux Rohingyas. La ministre des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a transmis le message du président Joko Widodo que la stabilité devait être maintenue par le gouvernement. Mme Retno Marsudi a également transmis le message du chef de l'État indonésien concernant l'engagement du gouvernement indonésien à établir une coopération et aider l'État de Rakhine à parvenir à la paix. La ministre Retno Marsudi a déclaré que l'engagement a été pris lors d'une réunion bilatérale entre le président Joko Widodo et le conseiller d'État de Myanmar, Aung San Suu Kyi, à Manille, aux Philippines, samedi.
Intinya adalah agar Rakhine State ini bisa berkembang menjadi sebuah wilayah.
Le but est de développer l'État de Rakhine pour être une région de la paix inclusivement et il n'y a plus la discrimination et d'autres choses négatives. Le président a déclaré, entre autres, les programmes que nous offrons sont la santé, l'éducation, les moyens de subsistance, etc. En outre, ils ont également discuté spécialement de la nécessité d'élaborer une politique ainsi à l'échelle nationale selon le nombre. Le Myanmar n'a que la moitié de ses besoins politiques. À cette occasion, Aung San Suu Kyi a également transmis au président Joko Widodo que la construction d'une mosquée dans l'état de Rakhine pourrait bien se faire. Elle a déclaré que la construction peut être commencée contre nous. Il n'y a plus de problème d'autorisation. Au cours de la visite d'État au Myanmar, le président était accompagné du ministre coordinateur des Affaires économiques, M. Darmin Nasution, le ministre coordinateur des Affaires politiques, juridiques et sécurité, M. Wiranto, et le secrétaire de cabinet, M. Pramono Anung. Vous écoutez toujours La Voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Le projet de la réalité climatique est un réseau mondial basé à Washington, D.C., aux États-Unis, qui met l'accent sur l'impact du changement climatique dans le monde et prête à résoudre les problèmes du changement climatique en Indonésie, notamment ceux liés à la déforestation. Il a été dit par le directeur du projet de la réalité climatique internationale, Matthew Bombs, dans une interview avec La Voix de l'Indonésie à Jakarta, vendredi 28 avril. Selon Matthew Bums, aujourd'hui, le gouvernement indonésien est assez bon pour faire face à la déforestation comme l'une des causes du changement climatique mondial. L'une d'entre eux est à travers la politique liée aux restrictions du défrichement de terres pour l'usage industriel dans les zones forestières dispersées dans toute l'Indonésie. L'Indonésie invite la Malaisie et la Thaïlande à lutter contre la campagne noire de palmiers à huile menée l'Union européenne. La ministre des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a déclaré que l'Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande ont le fort potentiel de croissance économique soutenu du secteur des plantations, y compris le palmier à huile. Cependant, le palmier à huile est attaqué par la question négative de l'Union européenne. Le dernier exemple est la résolution du Parlement européen sur l'huile de palme qui est très discriminatoire, comme déclaré Mme Retno Marsudi, citée du communiqué de presse du Palais dimanche le 30 avril 2017. L'Indonésie et la Malaisie ont formé le modèle de coopération commerciale intitulé le Conseil des pays producteurs de l'huile ou CPOPC. Par conséquent, selon elle, le président Joko Widodo a invité la Thaïlande à se joindre au modèle de coopération de CPOPC. Cette invitation a été prononcée par le président lors d'un sommet sur la croissance triangulaire. L'Indonésie, Malaisie, la Thaïlande, tenu à Philippine International Convention Center à Manille samedi 29 avril 2017. L'Indonésie espère l'adhésion de la Thaïlande dans cette coopération et la forme d'une tentative contre la campagne noire menée par n'importe quel parti. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Bonsoir, chers amis, vous écoutez toujours la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé La Journée internationale des travailleurs 2017. La Journée internationale des travailleurs est célébrée le 1er mai chaque année. L'histoire de la Journée des travailleurs vient d'une série de luttes des travailleurs qui réclament leurs droits quand le capitalisme développe au 19e siècle. À cette époque-là, le développement industriel était très rapide, notamment en Europe occidentale et aux États-Unis. Le salaire est très bas et les mauvaises conditions de travail ont provoqué la résistance des travailleurs. Leur demande principale est le temps de travail plus humain. Il est 8 heures. Le 1er mai est célébré comme la fête de travail après des affrontements entre les forces de sécurité et les travailleurs à Chicago, les États-Unis, faisant des victimes le 4 mai 1886. Pour commémorer cet événement, en 1889, le 1er mai a été proposé par le Congrès de Second International, à savoir l'Organisation internationale des syndicats et socialistes, comme la Journée internationale des travailleurs. En Indonésie, la fête du travail était célébrée depuis le 1er mai 1920. Mais depuis l'ère du Nouvel Ordre, la Journée des travailleurs n'était plus célébrée parce que le mouvement du travail et le syndicat des travailleurs sont toujours associés au Parti communiste étant interdits. Après le Nouvel Ordre est tombé, et a été remplacé par l'ère de la réforme. En 1998, le jour de travail a commencé à être commémoré à nouveau. Le gouvernement indonésien, depuis 2014, a fixé le 1er mai comme la fête nationale. La commémoration de la fête du travail en Indonésie est généralement faite via le discours des manifestants. Lors de la célébration de la fête du travail 2017, les travaux indonésiens demandent entre autres la mise en œuvre, la certification pour les travailleurs locaux pour se protéger contre l'invasion des travailleurs étrangers, refuser le système d'apprentissage d'emploi qui ne correspond pas aux règles et l'amélioration des services de la santé. D'autre part, le ministre indonésien du Travail, M. Muhammad Hanif Dahiri, en 2018, organisera un événement unique tel que La Ligue de football, les travailleurs nationaux, comme fait partie d'une série d'événements May Day et Happy Day. Le football est l'un des sports les plus populaires dans ce pays. On espère que cette activité peut encourager la communauté des travailleurs, les syndicats ou les communautés en entreprise de prendre part aux Ligues nationales de football. Espérons que la prochaine célébration de la fête du travail ne soit plus une simple démonstration, mais il peut être quelque chose qui plaît la communauté parce qu'il y a d'autres activités positives. Chers amis, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Vous écoutez toujours la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 1er mai est célébré comme la Journée internationale du travail. La Journée mondiale du travail provient de la manifestation des travailleurs aux États-Unis en 1886 qui demande la mise en œuvre de 8 heures de travail. Cette demande associée à l'état actuel lorsque les travailleurs sont forcés de travailler pendant 12 jusqu'à 16 heures par jour. De grandes manifestations exigeant 8 heures depuis d'avril au 1er mai 1886 à différentes villes aux États-Unis est suivie d'un demi-million de travailleurs dans le pays. Des manifestations pacifiques demandent une réduction du temps de travail à terminer parce que des émeutes et des victimes. L'Indonésie, en 1920, a également commencé à célébrer la fête de travail le 1er mai. Le 1er mai 1963, James Whittaker est devenu le premier Américain à conquérir le mont Everest. Il était un alpiniste américain. En tant que membre de l'expédition du mont Everest en 1963, dirigée par Norman Dierenfurth, il est la première personne des États-Unis à atteindre le sommet du mont Everest le 1er mai 1963. Bien qu'il manque de l'oxygène, l'équipe de l'expédition continue à atteindre le sommet. Le 1er mai 1919, le volcan Claude a éclaté et provoqué 5160 victimes mortes. Lorsque Claude a éclaté le 1er mai 1999, le volume des eaux du lac de cratère à ce moment a atteint 40 millions de mètres cubes et l'éruption en 1919 est la plus meurtrière car il a provoqué la mort jusqu'à 5160 habitants. L'éruption massive mortelle en 1919 a également détruit jusqu'à 15 000 hectares de terres productives. Elle a été causée par des coulées de lave cloutes qui descend jusqu'à la distance de 38 km, bien qu'on a construit un barrage à la rivière Badak depuis 1950, mais elle ne peut pas accueillir. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Radio République Indonésia, service international, la Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésia, service international, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la mise au point intitulée « Le Parlement adopte un projet de loi sur les limites de la zone économique exclusive Indonésie-Philippines ». Le projet de loi sur la ratification de l'approbation entre la République d'Indonésie et la République des Philippines concernant l'établissement de la limite de la zone économique exclusive 2014 a été ratifié par le Parlement dans la session plénière à Jakarta jeudi le 27 avril 2017. Le vice-président du Parlement, M. Fadlizon, a déclaré qu'en vertu de la loi, le gouvernement peut déterminer la limite de la zone économique exclusive du point en 8 basé sur les coordonnées géographiques en tant que système géodésique mondial de 1984. En séance plénière, le vice-président de la Commission 1 du Parlement, M. T.B. Hasanuddin, a déclaré qu'avec l'adoption de la loi, la certitude concernant la limite des droits souverains de l'Indonésie sur la zone économique exclusive, en particulier celle qui porte les Philippines, serait plus assurée légalement. Il expliquait que les avantages de cet accord étaient, entre autres, confirmer la reconnaissance juridique de la frontière de l'Indonésie avec les Philippines, ainsi que garantir la protection de l'environnement, la conservation des ressources naturelles biologiques et non biologiques, y compris encourager les efforts de collaboration pour prévenir et éradiquer les activités illégales, non déclarées et non réglementées, et la mise en œuvre des diverses activités de recherche scientifique dans la zone économique exclusive. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, M. Yasona Lawli, a déclaré que la loi de ratification sur la zone économique exclusive 2014 des gouvernements indonésiens et philippins contrôle le vol de poissons et donne des avantages économiques à Sulawesi. Le ministre des Affaires étrangères a apprécié l'adoption du projet de la loi sur la ratification d'un accord entre les gouvernements d'Indonésie et des Philippines concernant la détermination des zones économiques exclusives par le Parlement. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a déclaré que la réalisation de l'accord avec les Philippines et l'achèvement de cette ratification est une forme de sérieux du gouvernement de l'Indonésie pour résoudre le problème des limites avec tous les pays voisins de l'Indonésie. Dans un communiqué de presse le 27 avril, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, M. Arman Atanasir, a affirmé qu'avec l'adoption de l'accord, l'Indonésie aura une vision de la limite plus claire de la zone économique exclusive. Il a expliqué que ce qui est important dans la gestion du territoire des droits souverains de l'Indonésie, notamment la gestion des ressources biologiques, la marine et la pêche. En outre, l'adoption de cet accord donne également la sécurité juridique dans la conduite des activités économiques, y compris la gestion des droits de pêcheurs indonésiens dans cette zone, conformément aux dispositions de la législation. Selon M. Arman Atanasir, l'accord de la limite est le premier accord de la frontière maritime convenu entre l'Indonésie et les Philippines. La limite de la zone économique exclusive entre les deux pays est d'environ 1161,13 km avec l'approbation de la limite frontière de la zone économique exclusive. Maintenant, les deux pays sont tout simplement de discuter le point de rencontre des trois limites frontières de la zone économique exclusive entre l'Indonésie, les Philippines et la Malaisie sur la côte ouest et entre l'Indonésie et les Philippines et Palau au côté de l'est et de discuter de la détermination de la ligne de délimitation du plateau continental entre l'Indonésie et les Philippines. C'était la mise au point de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Le gouvernement indonésien garantit la liberté de la presse en Indonésie. Cela a été dit par le ministre des Communications et de l'Information, M. Rudiantara, aux médias à la mise en œuvre du premier jour d'une série de commémorations de la Journée Mondiale de la Liberté de la Presse, lundi à Jakarta. Le ministre Rudiantara a déclaré que les médias ont un rôle important à influencer la mentalité du public. Par conséquent, il espère que la liberté de la presse en Indonésie peut être faite avec la pleine responsabilité afin de maintenir l'intégrité de la République unitaire d'Indonésie.
Nah, memang di Indonesia ini kan media ini boleh dikatakan bebas, tapi harus ada tanggung jawab. Ya, kita lihat media televisi terutama ya yang menjadi katakanlah
motor. Indonesia, les médias sont libres, mais ils doivent avoir la responsabilité. Nous voyons les médias de la télévision, notamment qui devient le moteur, la presse écrite, les médias mainstream en général, qui est le moteur, doivent pour affecter l'état d'esprit du peuple. Nous montrons au monde qu'en Indonésie, les médias sont libres, mais il y a une responsabilité. Il est reflété dans la loi numéro 40 sur la presse en Indonésie. Le gouvernement n'a pas intervenu, mais il faut avoir la responsabilité. Il faut maintenir l'intégrité de la République. Le gouvernement facilite la démocratie de la presse. Mais encore une fois, je demande à tous pour maintenir l'unité de l'Indonésie. La série de la Journée mondiale de la liberté de la presse 2017 est tenue du 1er au 4 mai à Jakarta. La commémoration est commencée par le séminaire et la formation liée au développement de la presse et les efforts pour répondre aux défis des médias d'aujourd'hui. La Journée mondiale de la presse à Jakarta aura lieu le 3 mai avec le thème « La pensée critique sur un état critique, le rôle des médias dans le développement d'une société pacifique, équitable et inclusive ». La commémoration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, il y aura aussi la remise du prix Guillermo Cano, également appelé le prix UNESCO 2017. Ce prix sera remis à David Isaac, un journaliste né en Érythrée, sur le courage, la résistance et l'engagement à la liberté d'expression. Après avoir organisé avec succès le Festival d'Indonésie en 2016, l'ambassade de la République d'Indonésie à Moscou, en Russie, prévoit d'organiser un festival similaire en 2017. Le Festival d'Indonésie 2017 se tiendra plus longtemps et se concentrera spécifiquement sur l'activité et l'investissement des entreprises. Cela a été transmis par l'ambassadeur d'Indonésie à la Fédération de Russie et à la Biélorussie, M. Wahid Supriyadi, en mars de la performance culturelle « La merveilleuse d'Indonésie » ou « Wonderful Indonesia » à Saint-Pétersbourg, en Russie, récemment. Tout d'abord, le différent, cette année, le festival se tiendra pendant 3 jours. L'année dernière, seulement pendant 2 jours. Nous avons également mis l'accent sur le forum d'affaires et d'investissement en raison du festival d'hier que j'ai mentionné plus tôt. Il y a 2 résultats déjà obtenus, le fichage des produits alimentaires indonésiens. Le deuxième, Garuda va voler. Eh bien, cette opportunité sera utilisée pour promouvoir à la fois comme résultat du premier festival. L'ambassadeur Supriyadi a ajouté que le Festival d'Indonésie 2017 soulignait la promotion des produits indonésiens, notamment des produits des petites et moyennes entreprises indonésiennes. Le président indonésien Joko Widodo a tenu un entretien bilatéral avec le conseiller d'État de Myanmar Aung San Suu Kyi en marge du 30e sommet de l'ASEAN à Manille aux Philippines samedi 29 avril 2017. Au cours de la réunion, ils ont discuté des conditions au Myanmar et aux Rohingyas. La ministre des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a transmis le message du président Joko Widodo que la stabilité devait être maintenue par le gouvernement. Mme Retno Marsudi a également transmis le message du chef de l'État indonésien concernant l'engagement du gouvernement indonésien à établir une coopération et aider l'État de Rakhine à parvenir à la paix. La ministre Ratna Marsudi a déclaré que l'engagement a été pris lors d'une réunion bilatérale entre le président Joko Widodo et le conseiller d'État de Myanmar Aung San Suu Kyi à Mani aux Philippines samedi.
Intinya adalah agar rahim state ini bisa berkembang menjadi sebuah wilayah.
Le but est développer l'état de Rakhine pour être une région de la paix inclusivement et il n'y a plus la discrimination et d'autres choses négatives. Le président a déclaré, entre autres, les programmes que nous offrons sont la santé, l'éducation, les moyens de subsistance, etc. En outre, ils ont également discuté spécialement de la nécessité d'élaborer une politique. Ainsi, à l'échelle nationale, selon le nombre, le Myanmar n'a que la moitié de ses besoins politiques. À cette occasion, Aung San Suu Kyi a également transmis au président Joko Widodo que la construction d'une mosquée dans l'état de Rakhine pourrait bien se faire. Elle a déclaré que la construction peut être commencée, compte tenu, il n'y a plus de problème d'autorisation. Au cours de la visite d'État au Myanmar, le président était accompagné du ministre coordinateur des Affaires économiques, M. Darmin Nasution, le ministre coordinateur des Affaires politiques, juridiques et sécurité, M. Wiranto, et le secrétaire de cabinet, M. Pramono Anung. Vous écoutez toujours La Voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Le projet de la réalité climatique est un réseau mondial basé à Washington DC, aux États-Unis, qui met l'accent sur l'impact du changement climatique dans le monde et prête à résoudre les problèmes du changement climatique en Indonésie, notamment ceux liés à la déforestation. Il a été dit par le directeur du projet de la réalité climatique internationale, Matthew Bombs, dans une interview avec La Voix de l'Indonésie à Jakarta, vendredi 28 avril. Selon Matthew Bombs, aujourd'hui, le gouvernement indonésien est assez bon pour faire face à la déforestation comme l'une des causes du changement climatique mondial. L'une d'entre eux est à travers la politique liée aux restrictions du défrichement de terres pour l'usage industriel dans les zones forestières dispersées dans toute l'Indonésie. L'Indonésie invite la Malaisie et la Thaïlande à lutter contre la campagne noire de palmiers à huile menée l'Union européenne. La ministre des Affaires étrangères, Mme Ratna Marsudi, a déclaré que l'Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande ont le fort potentiel de croissance économique soutenu du secteur des plantations, y compris le palmier à huile. Cependant, le palmier à huile est attaqué par la question négative de l'Union européenne. Le dernier exemple est la résolution du Parlement européen sur l'huile de palme qui est très discriminatoire, comme déclaré Mme Ratna Marsudi, citée du communiqué de presse du Palais dimanche le 30 avril 2017. L'Indonésie et la Malaisie ont formé le modèle de coopération commerciale intitulé le Conseil des pays producteurs de l'huile ou CPOPC. Par conséquent, selon elle, le président Joko Widodo a invité la Thaïlande à se joindre au modèle de coopération de CPOPC. Cette invitation a été prononcée par le président lors d'un sommet sur la croissance triangulaire. L'Indonésie, Malaisie, la Thaïlande, tenu à Philippine International Convention Center à Mani, samedi 29 avril 2017. L'Indonésie espère l'adhésion de la Thaïlande dans cette coopération et la forme d'une tentative contre la campagne noire menée par n'importe quel parti. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Vous écoutez toujours La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, maintenant, je vais présenter la rubrique Magazine culturel. Et cette fois, je vais parler sur le parc touristique naturel de Templong à Nusa Tenggara Est. À 46 km de la ville de Kupang, capitale de la province de Nusa Tenggara Est, il y a une attraction touristique naturelle visitée par des touristes appelée le parc touristique naturel Templong. Le parc touristique de 2000 hectares est un habitat naturel pour des centaines de flores et de faune endémiques de l'île de Timor. D'ailleurs, ce lieu est aussi une place de stocker les ressources naturelles telles que les ressources d'eau et les étangs se forment naturellement ainsi que des grottes naturelles. De plus, ce parc est le choix des touristes qui ont visité Kupang en raison de sa beauté et sa fraîcheur naturelle. La principale caractéristique du parc touristique naturel Templong est l'existence de beaucoup de variétés de flores et de faune. Certaines sont même les fleurs et les faunes rares, et dans ce parc touristique, il y a une place de la reproduction des animaux tels que des crocodiles, des cerfs de Timor et de pythons. Les touristes peuvent également trouver les animaux endémiques d'origine qui vivent dans la nature tels que les pigeons, les commères et le perruche avec les épaules vertes jaunâtres. Certains animaux sauvages peuvent également être trouvés ici, comme cygnes à longue queue, lézards, couscous, sri gunting, etc. En plus d'un habitat pour de nombreuses faunes, les forêts de Templong sont également couvertes par le bois de cendana, qui sont des plantes endémiques de l'île de Timor. Le parc naturel de Templong est également l'endroit où se trouve la grotte naturelle. Cette grotte naturelle est généralement utilisée pour les activités de parcourir la grotte. En outre, il y a aussi une grotte artificielle appartenant à Templong. Dans la période coloniale, les Japonais ont construit une grotte dans les forêts qui font partie maintenant du parc touristique naturel de Templong. Cette grotte a été utilisée comme place cachette quand Tilzong était attaqué par la communauté locale. En outre, les touristes peuvent également faire du cross-country. Pas besoin de se soucier de se perdre lors d'un cross-country parce qu'il y a déjà un sentier à travers les forêts touristiques qui sont faites délibérément pour rendre facile les visiteurs de faire le cross-country. La zone forestière qui a été définie pour la première fois comme parc touristique en 1929 est située sur le bord de la route à la ville de Soe, le district Fatuleu, la région de Kupang. Cet emplacement est accessible de la ville de Kupang à Templong en prenant le transport en commun sous forme de minibus vers Soe ou utiliser une voiture privée avec un coût de parking de 5000 rupiah pour le moteur et 10000 rupiah pour la voiture. Pour entrer dans cet endroit, vous devez payer le ticket d'entrée qui n'est pas cher, à savoir 10000 rupiah pour les adultes et 5000 rupiah pour les enfants. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir avec le titre « Le parc touristique naturel de Templong à Nusa Tenggara Est ». Merci à tous et à bientôt.
Pour comprendre apprendre et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Allez, apprendre l'indonésien.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Apprendre l'indonésien, un programme qui vous invite à apprendre le bahasa Indonesia. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le sujet Mengapa kamu menangis? Je répète, Mengapa kamu menangis? Ou en français, Pourquoi tu pleures? Comme d'habitude, je vais vous présenter le vocabulaire et les expressions qui se rapportent au sujet de la conversation aujourd'hui. Mengapa? Mengapa? En français, pourquoi? Menangis? Menangis? En français, pleurer. Tiba-tiba? Tiba-tiba? En français, tout à coup ou soudain. Katakan? Katakan? En français, dire. Kamu? Kamu? En français, tu. Menyimpan. Menyimpan. En français, garder. Rahasia. Rahasia. En français, secret. Percaya. Percaya. En français, croire. Masalah. Masalah. En français, problème. Janji. Janji. En français, promettre. Maintenant, nous vous donnons un exemple de conversation intitulé « Mengapa kamu menangis ?» ou en français « Pourquoi tu pleures ?» Et voici une conversation entre Stéphanie A et Julie B au bureau. A. Mengapa kamu tiba-tiba menangis? Mengapa kamu tiba-tiba menangis? En français, pourquoi tu pleures tout à coup? B. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. En français, non, il n'y a pas de problème. A. Kalau kamu tidak ada apa-apa, mengapa kamu menangis? Kalau kamu tidak apa-apa, mengapa kamu menangis? En français, s'il n'y a pas de problème, pourquoi pleures-tu? Katakan pada saya apa yang kamu pikirkan. Nanti kamu akan merasa lebih baik. Katakan pada saya apa yang kamu pikirkan. Nanti kamu akan merasa lebih baik. En français, dites-moi ce que tu en penses. Et alors, vous vous sentirez mieux. B. Kalau saya beritahu kamu, apakah kamu bisa menyimpan rahasia? Kalau saya beritahu kamu, apakah kamu bisa menyimpan rahasia? En français, si je vous le dis, est-ce que vous pouvez garder un secret? A. Apakah kamu tidak percaya pada saya? Apakah kamu tidak percaya pada saya? En français, n'avez-vous pas me croyez? B. Saya percaya kamu, tapi saya tidak ingin masalah ini tersebar. Saya percaya kamu, tapi saya tidak ingin masalah ini tersebar. En français, je te crois, mais je ne veux pas ce problème de se propager. A. Saya janji tidak akan beritahu masalah kamu kepada orang lain. Saya janji tidak akan beritahu masalah kamu kepada orang lain. En français, je promets de ne pas dire tes problèmes à d'autres personnes. B. Terima kasih. En français, merci. C'était la rubrique Apprendre l'Indonésien pour ce soir. Merci à tous et à demain.
Couleurs du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonjour chers amis de la Voix d'Indonésie dans le monde entier, avec moi Yupi Suryanto avec le magazine de Planginada ou magazine de musique. Ce magazine qui présente la musique traditionnelle indonésienne et moderne. Pour cette édition, on va présenter une chanteuse en talent indonésienne du rythme kroncong appelée Sumiati. On va écouter d'abord sa chanson intitulée « Le port de Jakarta ». Bonne écoute. Thank you. Ce solitaire, cette chanson raconte la belle de la ville. La ville qui est la capitale de l'État de l'Indonésie est protégée par un millier belle l'île. La tombée de la nuit jusqu'à venir de la place de Jakarta qui est plus attractive. Les oiseaux blancs flottant accompagnent les bateaux de pêche ont commencé à développer l'écran et prêts à naviguer sous les mers. Autre que Sumiati, cette chanson était chantée par les autres chanteuses. Sumiati est une chanteuse qui a chanté beaucoup des chansons de Keroncong Betawi ou Jakarta. Le talent artistique qu'elle a hérité de son père qui est un musicien de gamelan. Chers amis, nous allons écouter la chanson suivante intitulée « Kichir Kichir ». Chers auditeurs, la chanson Kichir Kichir est une chanson populaire parmi la communauté à Jakarta ou Batavia. Bien qu'elle soit une chanson traditionnelle, mais la chanson est connue par les gens de l'Indonésie. Par rarement chantée lors d'événements au niveau national et international important, cette joyeuse chanson rythmique a ensuite été recouverte dans le genre de Keroncong. Bien qu'elle soit une vieille chanson, mais Kichir Kichir semble intemporelle. Chères auditrices et chers auditeurs, Sumiati est la sœur des chanteurs Mus Mulyadi et Mus Mujiono. En 1968, Sumiati et Bram Titale, au mieux connu sous le nom Bram Aceh, a publié un album ensemble avec un titre Jangan Duka. Sumiati est une femme qui est une chanteuse de Keroncong dans les années 60 suivant a remporté plusieurs compétitions du festival de Keroncong. Son fils, Dian Pramanaputra, est aussi l'un des chanteurs populaires dans les années 1990. Eh bien, chers auditeurs, pour conclure notre programme aujourd'hui, on écoute deux dernières chansons intitulées Kamayoran et Stambul Jampang, chantées encore par Sumiati. Au revoir.
Laju, laju.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, c'était des chansons indonésiennes. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésie, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta, ou PO Box 1157, Jakarta 2011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.